Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la radio web à la carte. L'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui
Fabien Laval.
Alors celui que je reçois aujourd'hui était encore récemment commandant de bord long courrier à Air France. Bonjour Fabien Laval.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans cette émission L'Oiseau Blanc, dans laquelle j'essaye autant que possible d'apporter quelques pincées de rêve, mais aussi de passion qui font la particularité de ce monde de l'aéronautique que vous connaissez si bien. Alors que celles et ceux qui nous écoutent sachent déjà que vous n'êtes pas avec moi dans le studio, mais que les moyens de communication dont nous disposons nous rapprochent néanmoins autant que possible. Ne reste qu'à croiser les doigts que tout marche bien jusqu'à la fin. Alors durant cette heure que nous allons passer ensemble, je vous propose que rêve et passion en soient le diapason, tant nous pensons que ce métier de pilote de ligne qui a été le vôtre ne peut s'en dissocier. Vous avez sillonné le monde aux commandes d'avions tels que le Boeing 747 ou le Boeing 777, ce 777 dans le jargon aéronautique, tous deux pouvant transporter, selon les versions, jusqu'à plus de 400 passagers. Alors, l'oiseau blanc va découvrir avec vous un métier qui, vous le conviendrez, le rend mythique, en particulier depuis la traversée de l'Atlantique par Lindbergh le 21 mai 1927. Vous voyez, Fabien, que je remonte très loin. Année durant laquelle a été créée l'aéropostale, l'aéropostale si chère à la région toulousaine, avec ses pilotes prestigieux tels que Mermoz, Saint-Exupéry et Guillaumet. Alors ce qui est étonnant dans cette référence, c'est que finalement, seulement 95 années nous séparent de cette période pionnière de l'aviation, que j'ose ici qualifier de ligne, en y déclinant aussi ce mot, finalement, courrier, dont le transport était d'ailleurs à l'époque le défi. Alors Fabien, oui, je me suis permis de vous appeler par votre prénom. Vous allez nous aider à lever le voile sur ce métier de pilote de ligne, commandant de bord long courrier que vous connaissez si bien, et qui ne se résume pas qu'à piloter aujourd'hui un avion, tant ses composantes complémentaires sont en effet de nos jours multiples. Alors techniques, humaines, organisationnelles, maintien des connaissances, maintien des compétences, celle de la sécurité, gestion des situations anormales, et je dirais, etc. Mais avant de rentrer avec vous dans cet ensemble d'interrogations, eh bien nous restons toujours curieux ici de mieux connaître et de découvrir cet homme que vous êtes. Celui qui vous a permis, oserais-je dire avec beaucoup d'humour, de rester toujours les pieds sur terre. Alors, Fabien, qui êtes-vous ?
Alors oui, les pieds sur terre et la tête en l'air, hein, en fait. Hein. Écoutez, je suis issu d'une famille simple, hein, relativement simple, hein, très, très modeste. J'ai ensuite eu la chance de rencontrer mon épouse à 20 ans. Alors, ça n'a pas changé et on est toujours aussi amoureux l'un de l'autre. On a également trois filles adorables. Et qui sont partis vivre leur vie à droite à gauche. Et malheureusement, il n'y en a pas une seule qui a voulu faire pilote, mais elles ont quand même une grosse fringale de bourlingue. Ça, je pense qu'elles le tiennent de leur père. Et j'en suis ravi. Voilà, et puis sinon, en fait, j'espère, du moins, quelqu'un de relativement simple, avec des passions. Le passion était le vol, la sécurité des vols, qui m'a beaucoup apporté également. Au niveau de diverses instances, organismes, et puis des amis, le sport bien sûr, et puis une envie quand même dévorante pendant toutes ces années, et le métier en était un peu le leitmotiv, de découvrir le monde, d'aller chercher toujours un peu plus loin. Voilà.
Alors vous faisiez référence à vos enfants, à cette passion de voyager qui est visiblement la leur. Et vous, à l'époque, étant gamin peut-être, est-ce que vous avez une mémoire d'un événement, je dirais d'un déclic particulier qui a généré cette passion et cette approche de l'aviation chez vous ?
Oui, alors il y avait ces images d'Épinal, hein, au sens propre, hein, que je regardais et sur lesquelles je rêvais. Il y avait aussi, c'est vrai, vers les 11-14 ans, une passion pour l'aviation qui se traduisait par la réalisation de maquettes en modélisme. Et puis mon père était pilote privé quand même, donc je pense que ça a joué. Il a essayé de m'y mettre, mais c'était sûrement un peu tôt. Donc après, bon, le flot des études a fait que je n'y ai plus trop pensé. Et puis c'est revenu bien plus tard, un peu par hasard. J'ai passé le concours ingénieur de l'ENAC. Un peu en dilettant, je dois dire. J'étais pas plus intéressé que ça. Et puis c'est peut-être ce qui m'a valu de bien y réussir, parce que j'étais très détendu. C'est là où j'ai rencontré mon épouse, d'ailleurs, durant le concours. Donc on peut dire que j'ai fait d'une pierre deux coups. Et là, rapidement, en fait, à l'ENAC, en première année, quelqu'un est venu du bureau enquête accident, bureau enquête année actuelle, pour nous expliquer ce qu'était le métier d'enquêteur. Et j'ai eu le coup de foudre, c'est-à-dire que c'était véritablement Tintin. On partait plonger au fond de la mer avec les requins, ou on coupait la machette dans la forêt vierge, on était au milieu du désert. Et j'ai signé tout de suite. Je leur ai dit, je suis en première année, mais en fin de cycle ingénieur, je veux y aller. Et puis, ça m'a effectivement beaucoup plu, mais à cette époque, bon, ça date quand même déjà, il y a une bonne trentaine d'années, le bureau enquête analyse n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est devenu une structure très, très importante, et à l'époque, ça visait un petit peu sur soi-même, on va dire, et je me suis assez vite ennuyé, donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas m'orienter vers le pilote de ligne. Alors, entre-temps, j'avais quand même passé un pilote privé, et là aussi, ça a été le coup de foudre. Là, je me suis dit, mais c'est véritablement quelque chose que je veux faire. Donc, naturellement, j'ai fait ces quelques années, j'ai fait au total 5 ans au bureau enquête analyse, ravi de pouvoir faire des enquêtes à droite, à gauche, me spécialisant sur les hélicoptères, apprenant mon pilote de ligne théorique le plus rapidement possible, donc me spécialisant également sur les avions long courrier, et puis également sur les enregistreurs de vol. Et tout ça m'a conduit me dire, bon, ok, je n'ai pas fait le tour du bureau enquête analyse, mais je voyais que mon avenir était peut-être un peu limité. J'ai quelques amis, je ne sais pas si Philippe, vous allez vous reconnaître, mais qui m'ont suggéré que peut-être ça serait une bonne idée d'aller faire pilote. Et j'ai trouvé que cette idée était effectivement excellente. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé.
Alors, une question, vous faites référence au bureau d'enquête et d'analyse. Aujourd'hui, je crois que le nom a changé en 2001, si je ne me trompe pas. Donc, il s'appelait, comme vous l'avez dit, bureau enquête accident. Et j'ai comme l'impression que cette nouvelle appellation qui, en fait, sortait ce bureau de l'analyse dure des accidents et qui élargissait vers les enquêtes, vers l'analyse, vous vous en êtes servi un peu par la suite.
Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu la chance de sortir donc avec un brevet de pilote de... À l'époque, ça s'appelait le PPR, donc c'était pas encore le pilote de ligne, mais c'était pas très loin. Ça permettait d'être embauché en compagnie et de sortir 2 ans avant la guerre du Golfe, donc dans une période où on manquait de manière cruciale de pilotes. Alors, pour information, c'est ce qui arrive en permanence. On est toujours sur des pics. Soit on en manque, soit, comme actuellement, on a plutôt tendance à en avoir en trop. Et là, bon, j'ai eu la chance de pouvoir choisir ma compagnie. J'ai choisi Air Inter. Alors, Air Inter, c'était pas la plus prestigieuse, mais il y avait des avions nouveaux, en fait. Il y avait un avion qui s'appelait l'A320, qui était tout neuf, qui venait juste de sortir. Ça m'intéressait bien. Il y avait un avion qui s'appelait le Mercure. Alors, on disait que c'était l'avion de chasse, donc ça aussi, ça me plaisait bien. Et puis, il y avait aussi des gens avec lesquels j'avais beaucoup travaillé étant au bureau enquête analyse et qui me correspondaient au sens des gens très réactifs, relativement sans ambiguïté, quoi. Les choses se déroulaient très bien. Et finalement, je me suis dit, allez, je tente ma chance à Air Inter. Je vois que l'ambiance était extraordinaire. Je me rappelle qu'en sélection, ils m'ont dit, tu n'as pas de chance parce que nous sommes deux. Moi, je m'appelle Poisson et lui s'appelle Poulet. Donc, tu es en face de deux drôles d'animaux. Donc ça, j'avais trouvé ça assez sympathique, quoi, comme ambiance. Et effectivement, j'ai pas été déçu. Air Inter, ça a été des années formidables. Il y avait un esprit équipage qui était sensationnel, à tel point que si quelqu'un ne venait pas boire un coup le soir, on l'appelait dans la chambre pour dire « ça va, tu n'as pas un problème, tu n'es pas malade, etc. » Même si le réseau était un peu limité, l'avion était tout neuf, très intéressant, beaucoup de pannes à gérer, donc ça m'intéressait aussi. Si on se souvient, enfin ceux qui s'en souviennent des débuts de la 320, c'était pas forcément tout à fait évident en termes de pannes. Mais sortant de l'école, ça m'allait bien, j'étais content, quoi. Et puis on m'a demandé au bout d'un an de travailler sur tout ce qui était analyse des incidents, alors il n'y avait pas d'accident, hein, mais analyse des incidents qu'il pouvait y avoir à la compagnie. Et puis de fil en aiguille, j'ai proposé de faire un service de sécurité des vols qui n'existait pas, donc un service de prévention. Tout ça a été exacerbé par l'accident en 1992 au Mont-Saint-Odile, qui a montré qu'on avait un véritable besoin de créer ce genre de service. Et on m'a proposé de créer ce service de sécurité des vols. Voilà.
Et ce besoin, finalement, de peut-être de retrouver, un bureau, puisque là, vous étiez en cockpit sur le 320, ou ce beau Mercure avec sa belle vitesse en approche. Et vous avez eu ce besoin de sortir un peu du cockpit ?
Alors, en fait, il faut comprendre que quand on est en vol, effectivement, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas dire magique, le mot est un peu galvaudé, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. On est ailleurs, on peut en parler un peu après, mais surtout, je me souviens, sur long courrier, cette impression quand on est au milieu de l'océan. On est à 2 heures des côtes, de nuit, à 10 km, à 10 000 mètres d'altitude, par moins 50. Qu'on est isolé de la cabine, hein, on a quand même une porte blindée. Le collègue à côté qui nous a dit « Bon, je vais dormir un peu parce que je suis vraiment trop fatigué, il est 3 heures du matin. » Et puis on regarde ce qu'on peut voir, hein, de l'extérieur. De nuit, on voit les étoiles et puis on voit parfois des masses très inquiétantes. On sait que c'est l'orage, on essaie de voir sur le radar qui ne dit pas forcément tout. Et là, on se dit mais mince, je vis quand même quelque chose qui est complètement fou, quoi. On se dit mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas possible, quoi. Ce petit point qui quand même se trimballe, c'est 400 tonnes de matériel qui se trimballe à 900 km/h, mais ce petit point perdu au milieu de l'océan et dans des conditions qui sont absolument anormales, quoi. Une température glaciale et un air raréfié à 10% de l'air qu'on peut avoir sur Terre. Donc là, effectivement, je dirais, c'est pas de l'adrénaline, mais il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et moi, ça me rappelait, j'ai beaucoup lu Terre des Hommes, je l'ai lu à répétition, de Saint-Exupéry, et c'est exactement ce qu'il décrit, cette sensation d'être détaché du monde, alors à la fois de ne plus être dans ce monde, et ça fait un sentiment de solitude, mais également de le voir de manière beaucoup plus globale, et ça c'était très intéressant. Après, ce qui me manquait un peu au niveau du pilote, c'était que le pilote il fait son vol, et ensuite il a terminé, il pose sa valise, et il va passer à autre chose, il va passer à sa vie. Et j'avais un copain qui m'avait dit « Moi, j'adore ce métier parce que quand je pars, j'ai l'impression d'être en vacances et quand je reviens, je suis vraiment en vacances. » Bon, c'est un peu caricatural. Lui aussi a fait ingénieur, d'ailleurs. Mais on était d'accord sur le fait qu'on avait envie de creuser un peu plus loin, c'est-à-dire s'il nous arrivait quelque chose, s'il y avait des choses qui se passaient, comment est-ce qu'on pouvait travailler pour mieux comprendre, mieux anticiper. Et ça, c'est un travail qui a été fait de longue date et que font de plus en plus tous les pilotes, bien sûr, et qui est particulièrement intéressant et qui m'a intéressé pendant 30 ans, quoi. Voilà.
Alors, vous avez fait référence à la vie familiale et quelque part à l'impact. Est-ce que dans le changement que vous avez vécu dans votre carrière, donc sorti ingénieur du bureau enquête et analyse et puis pilote, votre famille, comment elle a vécu ça ?
En fait, je vais choisir Inter en me disant, comme ça, je serai rentré pratiquement tous les soirs, donc c'est pas plus mal. Et finalement, c'est mes filles qui m'ont dit ce qu'elles ont ressenti. C'est-à-dire après, je suis allé sur mon courrier. Elle m'a dit, tu sais, papa, quand tu étais à Inter, tu étais toujours parti, tu revenais tard, etc. On ne voyait finalement pas souvent. Alors que quand tu étais sur mon courrier, quand tu étais parti. Mais quand tu étais là, au moins tu étais là. Pendant 3, 4 jours, une semaine, tu étais là, on savait que tu étais là, on pouvait compter sur toi. Donc, ça n'est pas forcément ce que l'on croit. Après, c'est vrai que le décalage long, on a quand même deux métiers qui sont très différents. Air Inter, même sur moyen courrier, on a des horaires qui sont sur des plages relativement étendues, mais on arrive à se faire au moins une nuit de 5 heures. Sur long courrier, bien sûr, ce n'est pas du tout ça. Vous êtes totalement déstabilisé au niveau des horaires. On rentre en général de nuit. Ça nous arrive même sur un courrier de 3 jours de faire 2 nuits en l'air. On arrive sur place, on se paye le décalage. Donc, si on voulait vivre à l'heure française, il faudrait être en permanence éveillé la nuit là-bas et puis dormir le jour. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ce qui fait que, oui, ce sont des contraintes. Le retour aussi, qui en général est compliqué et difficile parce qu'on est vraiment fatigué. On sait heure française, on a essayé de dormir un petit peu entre 3 et 7 heures du soir, et puis ensuite on part et on se retrouve à Paris, il est 9-10 heures du matin chez soi. Et bon, un collègue m'avait dit, il m'a expliqué qu'il avait retrouvé ses chaussures dans son frigidaire. Après, il a réussi à expliquer pourquoi. Enfin, ça lui a fait bizarre, une fois qu'il avait eu sa bonne nuit de sommeil, de se rendre compte que « Mais où sont mes chaussures ?» et de les retrouver dans son frigidaire. Et c'est ça, on est vraiment un peu lobotomisé à cause de cette fatigue qui finit par durer énormément.
Voilà. Et peut-être qu'aussi, sur place, enfin, j'entends dans vos stops en long courrier, la durée est moindre maintenant qu'à une certaine époque. Parce qu'il fut une époque où, sur place, l'équipage restait quand même, je dirais, quelques jours, alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est plus réduit.
Oui, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez peu d'avions, finalement. On pouvait avoir un avion par semaine ou deux avions par semaine sur une destination. Maintenant, souvent, on a plusieurs avions par jour. Donc, ça permet de réduire, effectivement, les temps d'escale de l'équipage, avec quand même les contraintes réglementaires, hein, mais qui ne sont pas si énormes. C'est un peu à minima, on va dire. Après, on a le choix. Bon, j'étais dans une compagnie qui est absolument extraordinaire, Air France, c'est royal, et ils avaient quand même le souci de faire attention à ça. Donc on avait aussi des escales longues. En fait, chacun voyait un peu en fonction de ce qu'il préférait. Les gens qui avaient des grosses charges familiales, par exemple, préféraient les vols courts, faire le maximum d'heures de vol en le minimum de temps, de façon à être chez soi. Personnellement, je m'octroyais une fois par mois un vol long, donc ça voulait dire rester 2-3 jours sur place, de façon à pouvoir découvrir les escales. Et là, effectivement, à chaque fois, c'était très très sympathique, on va dire. Voilà.
Alors j'ai à côté de moi Tiphaine, notre technicienne, qui aurait une question à vous poser en direct là par rapport à ce que vous venez de dire.
Oui.
Oui, bonjour. Moi je voulais savoir, pour les vols long courrier, est-ce que il y a une fatigue qui s'accumule et que ça rend en fait le pilotage plus difficile une fois dans la cabine ?
Alors, en fait, oui, il y a une fatigue qui s'accumule. Moi, je m'en suis rendu compte. Bon, au début, j'étais un peu tout fou du moyen courrier. C'est extraordinaire. On écoute des escales, Rio, Papette, etc. Donc, on a envie d'en profiter le plus possible. On tient le coup, il y a de souci. Et au bout de 2 ans, j'ai eu un coup de barre et je me suis rendu compte que j'ai dormi pendant pratiquement 5 jours. Donc là, ça m'a vraiment surpris. Et à chaque fois, je dormais 12 heures. Je me dis, bon, ça va mieux. Puis au bout d'une heure, j'ai encore besoin de dormir. Je redormais 12 heures. Donc, il y a une fatigue qui s'accumule et qui est insidieuse parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. On compare ça un peu à l'ivresse, on ne se rend pas forcément compte qu'on est ivre. Mais oui, donc ça c'est quelque chose qu'on a du mal à dissiper ensuite. Il va falloir 6 mois, presque 1 an pour arriver à dissiper ça. On le gère, en vol on le gère. C'est-à-dire qu'on sait sur long courrier qu'on vole moins de toute façon. Forcément on est moins attentif, on est moins vigilant, on a l'impression qu'on est bien, mais on arrive sur une approche, si on ne s'est pas réveillé avant, alors on a des techniques pour se réveiller, on boit le double café une demi-heure avant, on se remémore un certain nombre de checklists, de choses, etc., de façon à réactiver les neurones, mais même avec ça, on sait qu'on est moins performant. Après, on a encore d'autres barrières qui existent, à savoir, c'est d'autres collègues, voire les collègues qui sont à côté et qui vérifient évidemment et qui n'hésitent pas à intervenir. Donc là, le travail en équipage est très très important de ce point de vue-là.
Alors, puisqu'il est question dans la question de Tiphaine de pilotage difficile, en vol, il y a des phases plus délicates, l'atterrissage, le décollage, et en croisière, on est un peu plus, je dirais, tranquille. Et est-ce qu'en fait, le long courrier n'a pas pour conséquence de pratiquer beaucoup moins ces phases délicates, et comment vous en sortez au niveau de ce maintien de compétences?
Voilà, alors en fait, il est clair que la compétence est un peu amoindrie. Hein. Quand on est sur un moyen courrier, on va faire 4 étapes par jour. 4 étapes, c'est pratiquement ce que va faire un long courrier. Alors j'exagère, mais il va en faire 8 par mois, quoi. Donc c'est pas du tout la même échelle. Après, on a du simulateur, hein. Donc on s'exerce au simulateur, au total au moins 4 jours par an, donc c'est 2 fois, c'est tous les 6 mois. Et là, le niveau d'exigence est élevé. Alors, le niveau d'exigence est élevé, ça ne veut pas dire qu'on nous demande de faire le singe, hein, de jouer l'homme orchestre. Non, ce que l'on veut, c'est qu'on soit en permanence en sécurité. Donc, s'il y a besoin de temps, bien sûr, dans les limites du faisable, hein, le carburant coule, mais s'il y a besoin de temps, on le prend. On sait, sur long courrier, se ménager un temps un peu plus important pour résoudre les problèmes de façon, justement, à pallier ce manque de relatif de technicité. Après, les pilotes que je voyais, j'étais instructeur, les gens étaient très très bien entraînés et c'était véritablement pour compenser cette fatigue qui nous réduit que l'on se laisse des marges supplémentaires. Voilà.
Alors, on parle des autres pilotes, vous, commandant de bord, ou voire instructeur, hein, donc le copilote, finalement, comme d'ailleurs le personnel navigant commercial, vous les découvrez, finalement, ce qu'on appelle la prévol ou pas? Est-ce qu'un copilote, il vous arrive de ne pas le connaître,
hein? Alors oui, c'est le cas général, hein. À Air France, il y a 4000 pilotes, il y a d'ailleurs maintenant 13 000 hôtesses et stewards, donc la plupart du temps, on ne les connaît pas. Après, le travail est tellement standardisé que tout fonctionne, mais de manière implicite et tout se passe bien, donc il n'y a aucun souci. En plus, il n'y a pas que le travail, je dirais qu'il y a l'attitude, il y a le comportement. On est très éduqué là-dessus. On dit qu'on ne peut pas changer de caractère, on peut changer son comportement. Et on demande aux gens de changer leur comportement si jamais ils ont un caractère un peu trop fort. Ce qui fait que le travail est très agréable et surtout, on se soutient, on est là pour s'épauler. Il y a de la bienveillance, il y a bien sûr de l'exigence, mais il y a de la bienveillance et on veut en permanence faire en sorte que le vol se déroule bien. Et ça n'est pas un individu qui va le faire, c'est l'ensemble, c'est l'équipe. Voilà.
Mais j'oserais vous poser la question, Fabien, vous parlez de bienveillance. Est-ce que finalement cette bienveillance, elle est plutôt personnelle? Je comprends qu'elle puisse être généralisée pour justement arriver à ce résultat que vous présentez. Mais il peut arriver qu'un commandant de bord, et vous parliez, vous faisiez référence à Rio. Moi j'ai en mémoire une arrivée à Rio et je vois ce commandant de bord de 330 sortir, passer la file d'attente, et puis avec derrière tout son équipage. Et bon, voilà, je le sentais un peu dur dans sa manière de faire vis-à-vis de tout l'équipage. Alors, je ne sais pas si c'était une observation, je dirais, tout à fait personnelle et malvenue, mais cette bienveillance, elle est... Je dirais, je crois vous connaître bienveillant, donc c'est une qualité peut-être qui est exigée, mais est-elle générale?
Alors, la bienveillance en elle-même n'est pas une qualité exigée. On a des critères de compétence, hein, qui sont très normés et dans laquelle il y a une compétence qui s'appelle leadership et travailler en équipage et qui impose tant aux commandants de bord qu'aux membres d'équipage certaines règles. Alors, la règle du leader, c'est de faire participer l'équipage, tout l'équipage, de façon à pouvoir gérer le vol au mieux. Et la règle pour chaque membre de l'équipage, bah, c'est d'aider le commandant de bord et de s'entraider entre équipiers pour le même objectif. Alors, ça n'est pas, c'est pas bisounours, hein, c'est pas gentil. En fait, l'objectif, il est clair, c'est que on veut que le vol se passe au mieux. C'est dramatique d'avoir un commandant de bord qui est fermé à toute discussion, qui considère qu'il a absolument raison, parce que évidemment, il va fermer ses équipiers et nul n'est à l'abri d'une erreur. Hein. Bon, ça c'est l'accident de Tenerife, qui est quand même le plus gros accident qu'on ait eu à ce jour, hein, une collision entre deux 747 sur l'aéroport, avec un commandant de bord qui a cru qu'il était autorisé à décoller, alors qu'il ne l'était pas, et le mécanicien navigant a émis un doute, et il a dit non, il n'y a pas de problème, et puis ils sont partis se cracher dans l'autre avion. Décollage, quoi.
Oui. Voilà. En fait, on aborde la problématique qui est aussi valable dans une gestion d'équipe, dans une gestion d'entreprise, mais qui, au niveau d'un cockpit, du rôle du commandant de bord, toute transgression, pas peut-être fatale.
Voilà, c'est ça. C'est une obligation. Alors, ça n'est pas c'est relativement récent. Hein, ça a on va dire maintenant une quinzaine d'années. Précédemment, on évaluait les gens en fait sur leurs compétences techniques, c'est-à-dire qu'on les mettait au trapèze et puis au simu. Oui, ok, c'est bien la panne moteur, c'est bien le feu, etc. Mais on s'est rendu compte que, alors c'est pas au niveau d'Air France, c'est au niveau international, que la majeure partie des accidents ne venaient pas de ça. Ils venaient d'un problème d'équipage. Donc de gens qui étaient trop focalisés sur l'objectif, ça arrivait aussi, à savoir vous avez une panne mineure et vous oubliez totalement de piloter votre avion. Vous êtes tellement autoritaire que plus personne n'ose dire qu'il y a une montagne devant et qu'on risque de se crasher, etc., etc. Donc ça s'est initié il y a une bonne vingtaine d'années par ce qu'on appelait le crew resource management, qui progressivement est rentré dans les procédures. C'est-à-dire que ces principes de base, on a fini par les mettre dans non seulement les règles de l'art, mais des procédures qui sont écrites dans le manuel d'exploitation. Voilà.
Alors, on aborde la question de la responsabilité, hein, qui n'est peut-être pas le terme, je pense que nous allons en discuter. Et le commandant de bord, alors quel est son rôle, j'oserais dire derrière, entre guillemets ou sans guillemets, la responsabilité par rapport à la sécurité, etc.
Oui, alors le rôle du commandant de bord, c'est s'assurer que le vol s'effectue en sécurité, en sûreté, hein, donc tout ce qui est évidemment terrorisme, et puis également avec le maximum d'efficacité opérationnelle. Et déjà, rien qu'en prenant ça, on se dit qu'il peut y avoir certains conflits, c'est-à-dire que si on veut être très efficace, par exemple, on va dire, je vais économiser du carburant, donc je n'ai pas emporté de carburant, parce que quand on emporte du carburant, ça coûte du carburant, forcément, il faut le transporter. Je vais prendre le pétrole minimum, comme ça je vais être efficace, je vais faire gagner de l'argent à ma compagnie. Mais s'il fait mauvais à destination, c'est une très mauvaise idée, parce que vous augmentez votre risque de manière complètement inconsidérée. Donc cette responsabilité, ça induit une responsabilité juridique, certes, mais celle-là on la voit pas en général, heureusement. Je dirais même qu'elle peut être un peu contraignante, parce que si vous vouliez appliquer tous les règlements, les plus pointus soient-ils et les plus, entre guillemets, pinailleurs soient-ils, pratiquement, il faudrait rester au sol, quoi. Vous ne pourriez jamais décoller. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne respecte pas ceux qu'on doit respecter. Mais ce qui est en permanence le travail d'un commandant et en fait de chaque membre d'équipage, c'est d'effectuer une évaluation du niveau de sécurité, est-il acceptable? Oui, non. Et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Et ça, c'est à chaque seconde, chaque vol, chaque minute, chaque seconde. Hein, c'est vraiment en permanence, on a ça dans le sang. Et ça veut dire derrière prendre des décisions. Donc ce processus de prise de décision est très important. Et encore une fois, il ne va pas se prendre tout seul. Quelqu'un va dire, on a un souci, que se passe-t-il? Bilan, analyse, etc. Partage d'informations. Et ensuite, une décision qui est prise en général de manière collégiale, mais le commandant en dernier ressort, parce qu'il faut bien quelqu'un pour trancher si jamais il y a conflit, restera celui qui décidera. Voilà.
Alors, on aborde ici finalement la question de la gestion de l'avion. Mais derrière, comme je le disais tout à l'heure, le 777 ou le 747, eh bien vous avez derrière jusqu'à plus de 400 passagers. Est-ce que ce petit village-là qui est derrière, qui attend la nourriture et qui, se révolte de temps en temps pour le moindre dysfonctionnement, comment ça se gère? Alors certes, il y a le ou la chef de cabine, mais le commandant de bord, il a aussi sa tâche de coordination à ce niveau.
Oui, en fait, ça se gère en général bien, même si il est vrai que augmenter le nombre des passagers peut créer des mouvements un peu de foule. On a de plus en plus, ça s'est démocratisé, donc forcément on a de plus en plus d'hurluberlu qui peuvent être dans un avion, hein, statistiquement parlant. On a de plus en plus de problèmes médicaux aussi, hein, forcément, hein, quand vous transportez, c'est jusqu'à 471 passagers, forcément vous augmentez la probabilité, surtout que vous êtes sur des vols qui sont longs, qui sont fatigants, avec différents risques, phlébites, etc., qui fait que vous avez souvent des petits soucis médicaux à bord. Alors le PNC, donc le personnel navigant commercial, hein, hôtesse steward, est là en première ligne. En général, ça va se passer par gradation, c'est-à-dire que l'hôtesse va venir voir ce qui se passe, si quelqu'un commence à rouspéter, entre guillemets, va essayer de calmer, d'arranger les choses, etc. Et puis ça va remonter au cran supérieur si jamais elle n'y arrive pas. Donc il y aura un chef de cabine, sur le long courrier, vous avez un chef de cabine, puis après, enfin deux chefs de cabine, puis après un chef de cabine principal. Et puis vraiment, en dernier recours, si ça ne fonctionne pas, le commandant va prendre ses décisions, sachant quand même que nous, on a la porte blindée depuis qu'il est fermé, on ne va pas aller sur place, ce qui se faisait avant, hein, mais maintenant on ne le fait plus pour des raisons de sécurité. On va décider et éventuellement on va faire une annonce. Hein. Moi ça m'est arrivé une fois de faire une annonce en disant, bon, mesdames et messieurs, on a un vrai souci à bord, et un passager qui se comporte mal, donc on est en train de gérer ça et on risque malheureusement de devoir dégager à cause de ces passagers. En général, ça calme pas mal, puis on a un certain consensus pour que la personne arrête de casser les pieds. C'est ce qui se passe en général. C'est vrai que quand le commandant intervient, en général, ça calme. Voilà.
Ouais, moi, j'ai vécu à... C'était à Fort-de-France, un demi-tour au roulage du 747, parce qu'un passager avait un peu trop bu de Tiponche au départ. C'était assez surprenant. Et là, tout est devenu très calme quand on s'est retrouvé au parking.
Voilà, c'est ça. Bon, j'ai eu plusieurs incidents au sol, avant départ. Et les gens sont relativement faciles à recadrer. Ça m'est arrivé quand même une fois de entre guillemets, virer la personne, parce qu'elle était visiblement en état d'ébriété avancé. Pas forcément médicalement très vaillante, et donc ça n'est pas non plus extraordinaire d'avoir une personne dans cet état dans un avion qui monte en altitude et sur lequel vous avez resté pendant 10 heures. Vous savez pas ce qui peut se passer, il peut très bien avoir ensuite une complication médicale. Voilà.
Alors nous parlions tout à l'heure de la porte blindée, on parle des passagers un peu indisciplinés. Mais cette porte blindée, elle n'a-t-elle pas coupé ce relationnel que nous avons vécu du passager qui venait visiter avec son petit gamin, ou cette dame qui venait visiter la porte toujours ouverte et découvrir ce rêve, et vous découvrir, vous, les pilotes, dans vos fonctions?
Ah oui, c'est clair que ça a créé une barrière. C'est-à-dire que bon, on a les consignes, on les respecte, on n'a pas le droit d'inviter du monde à bord, sauf des personnes que l'on connaît expressément. C'est compréhensible, malheureusement. Voilà. Ouais.
Alors Fabien, nous arrivons déjà à notre pause musicale et vous l'avez choisie. Alors, que nous proposez-vous?
Alors, je vais vous proposer Sting, An Englishman in New York. Et est-ce que je peux expliquer
bien sûr, oui.
Pourquoi? En fait, je trouve que la musique de Sting est très planante, très aérienne sur certaines chansons. Et puis particulièrement, cette chanson indique ou décrit un état dans lequel on se trouve fréquemment en tant que pilote, à savoir, on part dans des escales qui sont lointaines, mais qui, quelque part, ont quelque chose quand même de relativement familier, au sens que vous voyez des gens qui vaquent à leurs occupations, qui mangent, qui dorment, qui s'aiment, des villes qui, bien sûr, ont leur style, mais on pourrait penser que nous sommes encore sur un facsimilé de ce que l'on connaît. Et puis au fur et à mesure, vous vous rendez compte quand même que non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous intégrez bien, les gens vous répondent, etc. Mais vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, et même carrément, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le même paradigme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même façon de penser. Alors, votre première réaction est évidemment de dire, ils sont fous, c'est n'importe quoi. Puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il y a des millions de gens qui pensent comme ça, et que c'est peut-être vous qui êtes fous, ou alors peut-être que chacun, finalement, a fait en fonction de ses contraintes environnementales, culturelles, sociétales, etc. Et c'est très beau, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas à votre place. Et puis quand vous revenez chez vous, à force d'accumuler ce genre de sensations, d'impressions, etc., vous vous rendez compte que vous risquez de ne pas être à votre place non plus, parce que c'est vrai que vous réagissez pas tout à fait non plus de la même manière quand vous rentrez à la maison. Voilà, donc j'ai trouvé que c'est exactement ce que décrit Sting dans cette très belle chanson.
Quelle belle introduction. Nous écoutons.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Man in New York. Whoa.
suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Alors nous voici de retour dans L'Oiseau Blanc avec Fabien Laval qui nous fait découvrir ce métier magique de pilote de ligne, commandant de bord, long courrier. Quelle chance vous avez eue, Fabien. Nous allons reparler avec vous de ce beau métier. Alors puisqu'il est question de chance, on a un peu abordé tout à l'heure les voyages, le long courrier. Je sors un peu du cadre purement technique. Le long courrier vous a amené à visiter de belles escales. Et ce que vous avez en mémoire, quelles sont les belles escales que vous avez visitées? Qu'est-ce qui vous a amené?
Oui, alors on a une chance à Air France, c'est qu'on a un réseau qui est sur long courrier absolument extraordinaire. On va sur les quatre continents, on ne va pas en Australie, c'est un peu trop loin pour les pattes ou les ailes de nos avions, globalement, on va véritablement partout. Et en termes d'escale, alors moi j'ai un souvenir c'était un de mes premiers vols, j'étais encore en formation, sur 747, une arrivée à Rio, parce que la baie est absolument magnifique, et vue du ciel, c'est encore mieux, quoi. Et c'est vrai que là, on se dit, mince, quand même, je ne pensais pas arriver un jour, en arriver là, quoi, quelque part. On est surpris, on se dit, waouh, c'est extraordinaire.
Elle est belle, hein, cette baie de Rio.
Mais oui, elle est magnifique. Ouais. Alors j'aimais bien aller à Rio, j'étais un peu bourlingueur, hein, comme vous l'avez compris, donc je prenais un vélo, puis j'allais me balader à droite, à gauche, ce qui n'était pas forcément toujours une bonne idée d'ailleurs, hein, parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, de manière générale, les escales long courrier, enfin surtout dans ces pays-là, Amérique du Sud, l'Afrique, etc., bon, faut pas trop jouer avec la sécurité, quoi. Et j'allais me balader, je me suis retrouvé dans des choses un peu abracadabrantes, mais ça s'est toujours bien passé, tant mieux pour moi. Mais ça a été des voyages du style une mise en place entre Rio et Sao Paulo, parce que souvent on faisait ça, hein, on reprenait un avion à Sao Paulo. Alors la mise en place, on avait deux solutions, soit on la faisait en avion, alors j'ai fait une fois en avion, et puis là on décolle de Santos Dumont qui est juste à côté, face au pain de sucre, puis ensuite on roule le pain de sucre, puis on longe toute la côte, on arrive à Sao Paulo, mer de nuages, mais avec les gratte-ciel qui sortent des nuages, donc c'est... on s'est dit waouh. Et puis une autre fois, on s'est dit avec un copilote, ben, on va le faire en voiture. Et on s'est fait toute cette côte là jusqu'à Sao Paulo en voiture. On est passé par des coins donc assez extraordinaires. Moi j'aimais bien le Brésil pour ça. On allait aussi à Brasilia. C'est une destination personne était trop fanat, parce que c'est vrai que Brasilia même, on avait vite fait le tour. Mais par contre, vous prenez une voiture et à 2 heures de voiture, vous avez des choses complètement hallucinantes. Je me suis baladé avec les Indiens, là. On est allé voir des cascades, etc. Enfin, il y avait des tonnes de choses à faire magnifiques. Et puis, il y en a énormément. J'ai une particulière affection pour le Japon, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on arrive, on se dit, oulala, mais c'est gris, c'est triste, c'est triqué, ces gens-là, comment vivent-ils? Mais il y a... je pense que le Japon est mystique, les gens sont mystiques, donc ils croient en certaines choses qui sont absolument fondamentales pour eux, et vous vous sentez bien, vous vous sentez en famille. Vous savez, en famille, les gens ne sont pas toujours beaux, extraordinaires, etc., mais vous êtes en famille, et ben là, je me sentais en famille, donc j'aimais bien y aller. Voilà, et puis il y avait tellement d'autres... alors j'aimais beaucoup aussi l'île de la Réunion, bien sûr, pour aller se balader. L'approche sur la Réunion aussi, l'arrivée est magnifique, quoi. C'est vraiment ce diamant au milieu de la mer, au milieu de l'océan, et énormément d'autres choses. Santiago pour les randonnées en montagne, San Francisco, on allait se balader autour, c'était toujours très agréable. Ce que j'essayais quand même, c'était au bout d'un moment, vous connaissez, vous avez fait le tour des attractions, on va dire, les plus dominantes, quoi, ce que tout le monde va voir en tant que touriste, et puis vous vous dites, bon, bah, on va essayer d'aller un peu plus loin, alors on va essayer de creuser. Et donc je me préparais des voyages inédits. Je sais qu'à Lima, je suis allé dans un coin que personne ne connaît, qui a 5 heures de voiture et qui est sur un haut plateau à 4500 mètres avec des montagnes qui vous entourent qui sont à 6000 mètres. Et là, vous avez un site Inca avec 300 statues gravées dans la pierre, personne autour, pas un touriste, rien. Et vous êtes là un peu perdu en plus et un peu flottant, parce que 4500 mètres, il faut quand même... on commence à être un petit peu dans les vapes. Et vous dites, bah ouais, quand même, c'est quelque chose. Voilà.
Donc on a goûté à ce plaisir qui n'est plus celui du pilote, mais qui est celui du voyageur qui se retrouve justement dans ces beaux pays lointains. Alors, puisqu'on parle de l'étranger, je parlais des escales, pour revenir un petit peu au côté technique, au côté de gestion de l'avion. Alors, quand vous arrivez sur une escale lointaine, vous avez le contact avec l'escale Air France, et quel appui vous avez de ces personnes qui sont localisées là, sur place?
Oui, elles sont principalement là pour gérer l'avion au sol, et puis également gérer, bon, bien sûr, les passagers. Dans de certains cas, bon, on a eu, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais on a eu un accident à Toronto en 2005. J'ai été responsable de l'enquête pour Air France, et l'appui, le soutien de l'escale de Toronto, également celle de Montréal, hein, qui a été diligenté pour l'occasion, a été absolument considérable. Il fallait arriver à gérer ses passagers, il y avait des blessés, il y avait tout un tas de choses, et vous imaginez le cataclysme que ça peut être, et encore, il n'y avait eu que des blessés, quoi. Donc l'escale, c'est notre soutien, c'est ce qu'on va appeler de toute façon si on a un problème, si on a un membre d'équipage qui est malade, par exemple. Enfin bref, pour tout ce qui est, je dirais, une fois qu'on est sorti de l'avion, on s'en remet totalement entre les mains de l'escale. Voilà.
Et là, est-ce qu'on peut dire que le rôle du commandant de bord est terminé? Alors peut-être, là il y a question de l'accident, donc bien évidemment, le commandant de bord est toujours, je dirais non pas impliqué, mais toujours dans la boucle de l'analyse, du souci du moment, si je puis dire. Mais par exemple, dans un déroutement, vous vous retrouvez sur une escale, les passagers ne s'y attendent pas du tout, et voilà, les 470 derrière, ils se retrouvent sur un aéroport qu'ils n'espéraient pas. Et là, le commande-bord, lui, il transfère tout à l'escale, c'est l'escale qui continue cette gestion.
Oui, alors en fait, le commande-bord, il est responsable à bord. Il travaille avec son équipage, comme on l'a dit, hein, et ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire que chacun va avoir des avis, des informations données, etc. Et le commande-bord, il va faire la centralisation de tout ça, il va essayer également d'être le facilitateur. Moi je me souviens d'un événement qu'on a eu, on devait être encore au Kenya ou dans ces coins-là, peut-être au-dessus de Mogadiscio. On me réveille, j'étais en train de dormir, on me réveille, on me dit bon voilà, quelqu'un a fait un problème cardiaque, et puis on ne sait pas ce qu'il faut faire. Les copies avaient une idée quand même, et il me dit ça comme ça, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà, organisation, on contacte la compagnie, etc., on contacte des médecins à bord, et déjà il va y avoir une collecte d'informations, qu'est-ce qui se passe exactement, est-ce que ça nécessite un déroutement ou pas. Et puis, bon, il s'avère que oui, ça nécessite un déroutement. Comment est-ce qu'on s'en organise ce déroutement, sachant qu'il est 2h du matin, donc les escales avoisinantes, non, Djibouti, un peu trop loin déjà, Jeddah, alors on commence à aller sur Jeddah. Pour information, Jeddah, au bout de 20 minutes, il nous refuse l'atterrissage à cause médicale. Donc, grosse surprise, là, j'ai toujours pas compris comment c'était possible, mais ça fait partie des aléas. Et après, on s'est dit, bon, il n'y a plus le choix, il faut qu'on continue jusqu'au Caire. Et là, on a un peu plus d'une heure, une heure et demie pour s'organiser. Donc, basiquement, le rôle du commandant, là, il est vraiment de coordonner les actions. On est trois pilotes. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. J'ai un chef de cabine et il faut que tu as telle et telle chose à gérer. Voilà. Et puis, on se fait des points toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes pour savoir où on en est et puis continuer sur la suite. Ce qui fait que quand on est arrivé, tout était déjà prêt. Tout le monde était informé. L'escale était là, avait réagi énormément. Et on a mis finalement une heure bloc entre le moment où on est arrivé et le moment où on est reparti, donc gain évidemment pour les passagers de temps ou perte de temps minimale, et surtout une très bonne efficacité. Mais encore une fois, le rôle du copilote, là on était en surcharge carburant, donc on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on se pose comme ça, on est en urgence, on a le droit. On a le droit, on se pose en surcharge. Et puis un copilote dit oui, mais quand même ça serait dommage, on n'a que 20 tonnes à perdre, il vaudrait mieux les vidanger, parce que si on ne vidange pas et qu'on atterrit dur, l'avion il est bloqué, et là il va être bloqué pour plusieurs jours. Donc beau jour les dégâts, ça va vraiment durer cette affaire, tout ça pour économiser 20 tonnes. Alors évidemment 20 tonnes, ça peut paraître quand même à 500 euros la tonne, ou 600 euros la tonne, ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à immobiliser un avion plusieurs jours sur un risque d'atterrissage dur, ou un peu dur, sachant qu'à l'escale il n'avait pas les mécaniciens qui allaient bien, ça vaut le coup ça valait le coup, donc on a pris cette décision, voyez. Et le rôle de l'escale, pour nous ça a été relativement transparent, mais enfin ils étaient là, il y avait le carburant qui était là, il y avait le devis de masse centrage, il y avait l'accueil pour la passagère, l'ambulance, etc., qui était sur place, donc tout a tourné à la perfection.
Alors, on vient de parler d'atterrissage dur. Fabien, moi j'ai une question là, est-ce qu'un atterrissage dur est toujours un mauvais atterrissage?
Alors ça dépend ce qu'on appelle dur, là aussi on a une nomenclature pour ça, mais un atterrissage ferme, on va dire, n'est pas un mauvais atterrissage, c'est même une préconisation, c'est-à-dire que essayer de faire ce qu'on appelle le kiss landing, c'est-à-dire un atterrissage le plus doux possible, bon c'est sympa, mais vous mangez énormément de piste quand vous faites ça, évidemment ça rallonge la longueur de piste, et une contrainte, mais alors là dur, c'est de vous poser avec dans une certaine plage par rapport au seuil de piste. Le seuil de piste étant le pas tout à fait le début de la piste, mais enfin c'est pas loin du début de la piste. Donc si vous ne vous posez pas dans cette plage-là, déjà vous êtes carton jaune. L'analyse des vols, le service analyse des vols va vous appeler en disant oui, on a repéré que, etc. Puis au-delà du fait qu'il vous appelle, ça va pas, vous n'avez pas respecté la procédure. Et puis pourquoi c'est mis en place ça? Forcément parce que déjà les pistes sont pas illimitées, donc si vous commencez à planer au-dessus des pistes, ça peut faire des ordres. Mais vous pouvez aussi avoir une piste très mouillée, et puis vous allez rentrer en hydroplaning. Donc à ce moment-là, votre avion, quand vous voudrez faire freiner, il ne freinera pas, ou il ne freinera pas suffisamment pour s'arrêter. Vous pouvez aussi avoir, si vous planez comme ça au-dessus d'une piste, vous êtes quand même très proche du sol, des rafales, des turbulences, qui fait que votre avion risque d'être déstabilisé, sortir latéralement de piste, voire toucher de l'aile, etc. Donc ce n'est pas une bonne une bonne idée de rester longtemps au ras des pâquerettes comme ça. Voilà.
Et la remise de gaz,
Alors, la remise de gaz, on la pratique. Alors, on dit la remise de gaz est une procédure normale. Bien sûr, bon, ça fait peur. On se dit, mince, il y a une sensation d'échec aussi. C'est-à-dire que bon, c'est quand même pas prévu, quoi. On s'est dit, qu'est-ce qui a pas marché? La remise de gaz, elle va être faite s'il y a le moindre doute par rapport à la bonne réussite de l'atterrissage. Alors, ça peut être le cas si vous avez une arrivée un peu trop rapide. Même chose, il y a des critères de stabilisation qui sont très, très stricts, très normés. Dès que vous dépassez ces critères, normalement, vous ne continuez pas, vous n'avez pas le droit, vous remettez les gaz. Et ça, c'est pas au ras du sol, hein, c'est à 1000 pieds, c'est à 300 mètres. Bon, après, vous pouvez être déstabilisé en dessous de 1000 pieds, même chose, vous allez remettre les gaz. Vous pouvez ensuite avoir bien sûr un ordre du contrôle, un avion par exemple devant vous qui est trop près. Moi, ça m'est arrivé une fois de décider, j'ai dit au contrôle, non, ça va pas le faire, regardez, c'est pas possible. Bon, on va pas le faire, on ne le fait pas spontanément, évidemment, on attend que le contrôleur nous donne l'ordre, mais on peut les inciter en disant, attendez, là, on commence à être un peu juste. Voilà, donc la remise de gaz, évidemment, c'est disruptif, ça fait perdre du temps, c'est inquiétant pour les passagers, on va faire une petite annonce après pour expliquer, les rassurer. C'est une procédure qu'on a l'habitude de faire, mais au SIMU, donc quand il est 6h du matin, qu'on arrive, qu'on n'a pas dormi de la nuit, etc., et qu'on s'y attend pas, forcément ça peut piquer les yeux, mais on s'y attend, normalement on doit s'y attendre, c'est-à-dire qu'on est tous un petit peu parano, hein, en fait, en tant que pilote, on s'attend toujours à, entre guillemets, ce qui ne doit pas arriver, voilà. J'avais même un instructeur, il me disait, normalement, si tout se passe bien, on remet les gaz, et avec un peu de chance, on atterrira. Voilà, c'était une façon de dire que c'est l'atterrissage qui était la procédure non normale, entre guillemets, quoi.
Alors, toutes ces phases délicates me conduisent à faire le lien avec l'évolution des avions. On va pas remonter à Lindbergh, mais ne serait-ce que dans le cadre de votre carrière, je suppose que... Eh bien, les moyens à bord, la technique de bord, ben, on parlait tout à l'heure de l'atterrissage ou la remise de gaz, tout ça peut être accompagné aujourd'hui par certains automatismes. Et comment vivez-vous cette évolution et comment avez-vous vécu cette évolution technique et ma question, c'est comment garder l'humain au centre de la boucle lorsqu'il est entouré d'autant d'automatismes?
Oui, alors en fait, les automatismes, bon, on va dire que ce qui a créé un schisme relativement important, c'est l'arrivée de la génération A320 avec des commandes de vol électriques, avec des systèmes intégrés à bord. Maintenant, sur A320, il doit y avoir à peu près 150 calculateurs. Donc tout ça parle, se fait du cross-talk, etc. Et puis de temps à autre, s'il y en a un qui commence à défaillir, bah, les autres se sentent mal, quoi. Donc, où est l'humain là-dedans? Bien sûr, ça c'est la question essentielle. Déjà, ça veut dire une grosse charge de travail pour l'équipage, parce que ça veut dire beaucoup plus de connaissances de leur système, etc. Après, il y a eu un allègement, c'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, si on demande à un équipage comment fonctionne un pack de conditionnement, il y en a beaucoup, ou même l'intérieur d'un moteur, il y en a beaucoup qui ne sauront pas dire. Hein. On a un peu appelé ça le syndrome Moulinex, hein, pour le moteur. Les gens qui s'étaient émus du fait qu'on ne savait plus comment fonctionnait exactement le moteur. Oui, on en a besoin, mais jusqu'à une certaine limite. Et après, on a besoin effectivement de comprendre surtout comment fonctionnent les automatismes. On a un troisième pilote qui s'appelle le pilote automatique et tout ce qui est derrière, hein, tout l'automatisme. Et on est malheureusement, moi je répétais toujours, et c'était surtout, je parlais pour moi-même, c'était un ancien qui m'avait dit ça, pareil, c'est l'intelligence artificielle ne remplacera pas la bêtise naturelle. Bon, bah, c'est exactement ça, on a besoin de revenir à des fondamentaux qui vont nous faire éviter un automatisme qui va défaillir et on ne saura pas pourquoi, on n'aura même pas le temps de l'analyser. Donc ce qui ne change pas, c'est ce retour, enfin ce besoin de revenir à l'essentiel, ce qu'on appelle le back to basics, hein, relativement connu, hein, des aviateurs, à savoir, bon, bah, il vous faut une assiette, la poussée, une trajectoire, et puis globalement une conscience de la situation, savoir où vous êtes au milieu de montagne, etc. Et si vous avez ça, bon, qu'est-ce qui peut vous arriver d'autre, hein, voilà. Donc, je pense que toutes les évolutions, aussi bonnes soient-elles, parce qu'on a énormément évolué, on a une conscience qui est beaucoup plus plus vive de la situation maintenant, grâce à tous ces outils qu'on nous fournit, ne remplace pas, et on l'a vu malheureusement sur certains accidents, Air France, le Paris-Rio par exemple, ne remplace pas cette nécessité de toujours revenir à des fondamentaux au niveau du pilotage.
Voilà. Est-ce que vous considérez que les jeunes, parce que bon, vous êtes jeune et je suis jeune, on est tous restés très jeunes, mais est-ce que le jeune qui aujourd'hui est beaucoup plus, baigne beaucoup plus dans ces automatismes, ces divers moyens qui l'entourent, est-ce que cette approche de l'humain, de cette veille dont vous venez de parler, se fait aussi facilement puisque vous avez été instructeur ?
Alors, en général, les jeunes qui arrivaient étaient des gens brillants. Bon, les sélections, malheureusement, elles sont très très pointues. Je me souviens d'un responsable de la sélection que j'aimais beaucoup, qui m'avait dit il y a beaucoup de gens qu'on ne sélectionne pas. Bon, il y a eu un petit détail, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. On est persuadé que ça serait des bons pilotes, mais on a tellement de choix qu'on ne peut pas se permettre de... Donc on se retrouve avec des gens qui sont véritablement très pointus. Après, ce qui peut se passer par exemple, c'est que ces gens qui sont vraiment au-dessus du panier finissent par créer un problème en équipage. C'est-à-dire que bah, moi j'ai tout compris, qui est cet abruti à côté de moi, là, qui a 20 ans de plus, un peu ronchon ou un peu dans ses nuages, et il faut que je lui explique en permanence ce qui se passe. Donc cette volonté de faire un peu cavalier seul parce que on a tout compris et qu'on est plus intelligent, etc. Alors bon, on avait parlé, on avait un adage, hein, c'était si on veut aller vite, on va seul, et si on veut aller loin, on va ensemble. Donc en formation, parce que je disais, parce que j'en ai rencontré des gens comme ça, et c'était des braves gens, mais ils se rendaient pas compte qu'ils, d'une part, ils créaient un malaise, et puis ils tournaient tout seuls, ils étaient toujours très en avance. Le problème, c'est que comme ils étaient tout seuls, très en avance, ben, ça pouvait ne pas le faire. Et je leur avais dit, mais il faut absolument que ce surcroît d'intelligence que tu as, tu le mettes à aider celui qui a du mal autour de toi, ou celui ou ceux. C'est-à-dire qu'il faut les épauler de façon à ce que vous soyez en permanence au même niveau. Et c'est ça la vraie intelligence. La vraie intelligence n'est pas d'aller tout seul dans son coin en disant « Vous avez vu, je suis bien plus fort que vous. » Et ça, c'était une belle leçon de vie. Et je pense que les gens l'acceptaient, le comprenaient souvent, et encore plus en commande bord, évidemment. Un commande bord qui veut se la jouer, c'est facile parce qu'il a l'autorité, quelque part, etc. Donc les gens ne vont rien dire. Mais c'est épouvantable. C'est inimaginable. On n'a pas le droit de faire ça. Donc ça, c'est un message fort qu'on passait.
Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, on est presque au niveau de la problématique du relationnel entre parents et enfants, quelque part.
Non. Alors, parents et enfants, je sais pas, on est plus... moi, je dirais, il y a quand même un sentiment de camaraderie, hein, ouais. qui est très fort. Un des plus beaux métiers, finalement, que j'ai exercé, parce qu'on en exerce pas mal. J'ai exercé pilote, j'étais cale, j'ai fait pas mal de fonctions, mais c'était vraiment l'instruction. Parce que on voyait à la fois les forces, et on s'en inspirait. On s'est dit, tiens, ouais, ça, c'est vraiment extra. Je le retiens, ça, pour moi. Et puis, les faiblesses de chacun. Et après, c'était d'essayer de le faire comprendre, mais gentiment, encore une fois avec bienveillance, et comme les gens ne sont pas... ont peu d'égo finalement, on a quand même beaucoup changé au niveau de l'aéronautique par rapport à il y a peut-être 40 ou 50 ans, ça passait très très bien, et il y avait un sentiment très fort de, je sais pas, d'appartenance, de reconnaissance, de se dire oui, ok, on fait vraiment du bon boulot, on est content, voilà.
Oui, mais comme vous dites, hein, je crois que l'humain est toujours dans cette boucle, et je suis convaincu que cette tâche d'instructeur que vous avez eu, vous avez aussi utilisé votre particularité, vos facilités justement dans ces relations humaines.
Oui, après, bon, j'ai pu être ronchon à certains moments, et je m'en excuse auprès des collègues, hein. Bon, quand il est encore une fois 3h du matin, qu'on n'a pas dormi, etc. Bon, c'est vrai qu'on est parfois moins réceptif. Ça dépend aussi de la phase. Si on est dans une phase qui est très chargée, qui commence à être critique, bah, là, on laisse tomber les politesses, évidemment, on va à l'essentiel. Mais ça, les gens le savent, de toute façon. Mais moi, encore une fois, je crois que c'est l'Inventaire des hommes. Hein, Saint-Exupéry, il disait « la seule aventure, c'est l'aventure humaine ». Et ça, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que, étant gamin, je rêvais de parcourir le monde, d'aller dans tous les recoins, etc., de m'imbiber de toutes ces expériences extraordinaires, ces ambiances. Mais finalement, la véritable aventure, la vraie aventure, c'est l'aventure humaine. Oui, c'est vrai.
Alors, une belle phrase pour aller vers notre conclusion, nos derniers échanges, parce que malheureusement, le temps passe et il passe toujours trop vite. Après une telle carrière, vous avez des regrets, Fabien ?
Bah, les regrets, c'est vrai que de temps à autre, il m'arrive de rêver que je suis en vol ou je suis en équipage. Et là, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Mais bon, je pense franchement j'ai eu une très très belle carrière, court, moyen, long, différents postes. Bon, on n'a pas parlé de ce que j'ai fait aussi comme poste, mais j'ai eu la chance de travailler avec IATA, Fly Safety Foundation, etc. pour mettre en place des outils qui servent maintenant dans l'aéronautique, pour améliorer la sécurité des vols. Donc ça aussi c'était des expériences avec des gens qui étaient extraordinaires. Hein. Non, je pense que de toute façon, bon, on est dans l'agir quand on est jeune, et puis on est dans l'être probablement beaucoup plus quand on vieillit, parce qu'on a moins de capacité, parce que ça correspond plus à nos aspirations, etc. Donc il y a encore énormément de choses à faire, et puis moi ça me va très bien, hein, c'est parfait.
Donc il n'a pas été difficile pour vous de sortir de ce que j'appellerais ce mythe du pilote de ligne, avec sa belle casquette, son bel uniforme qu'on voit traverser l'aérogare?
Oui, alors non, moi je l'ai jamais eu ça, la casquette. Alors à l'intérieur, on la mettait pas, la casquette, on rigolait en voyant certains collègues qui la mettaient, parce qu'en général c'était pas les plus... c'était eux qui avaient un peu le chapeau trop près du crâne, quoi. Mais par contre, je ne remets pas du tout en cause. À certains moments, il faut la casquette, il faut l'uniforme, et l'uniforme doit être irréprochable. Mais l'uniforme, c'est en fait une façon de se reconnaître entre nous également. C'est une façon de, entre guillemets, montrer une certaine autorité. Mais la vraie autorité, elle sera quand même dans la relation que vous aurez. Si vous êtes imbuvable, votre autorité ne sera que administrative, si je puis dire. Voilà. Donc non, je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs parmi les collègues, ce sont en général des gens simples, des gens ouverts, très malléables également, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est des gens qui sont très ouverts et qui vont très rapidement pouvoir changer s'il faut changer. Voilà.
J'ai comme l'impression que les collègues ont eu la chance de vous croiser.
Comment ça, pardon ?
Je crois que les collègues ont eu une belle chance de vous croiser, finalement.
Oui, oh, bon, je ne dirais pas ça. Hein, honnêtement, en tout cas, ce métier est d'une richesse incroyable, et il sera toujours, je pense, aux jeunes qui peuvent nous écouter, qui se posent des questions. Il faut y aller. C'est vraiment un métier très intéressant à de nombreux titres. Ça n'est pas facile, il faut vraiment énormément bosser, il faut avoir un peu de chance. Commencer par se faire une visite médicale pour vérifier que malheureusement ou qu'heureusement on est dans les critères, hein, parce que les critères sont relativement sélectifs au niveau médical. Et puis après, vraiment y croire, et ça restera toujours un beau métier. Je pense pas qu'on se prive de pilote, on n'aura peut-être plus qu'un à bord, j'en sais rien, mais il y aura toujours des beaux moments, très beaux moments.
Ces conseils aux jeunes, peut-être pour revenir un petit peu au début de votre carrière et expliciter, vous aviez passé, c'est ce qu'on appelle les certificats à l'époque, toute la partie théorique, vous l'aviez passé et avant de faire ce choix de pilote de ligne. Ça vous a permis peut-être, ça vous a facilité ce transfert?
Alors en fait oui, c'était un concours de circonstances, c'est-à-dire que au bureau enquête analyse, je me suis rendu compte que il y avait un vrai besoin d'expertise sur la partie avion de ligne, on va dire, hein, donc en exploitation, etc. Donc je me suis dit bon, bah, je vais étudier ça. C'était pas non plus, enfin j'avais le temps, honnêtement, l'administration était relativement tranquille en termes de de timing, donc j'avais le temps de faire ça. Et puis, très rapidement, je me suis dit, parce que j'adorais piloter, je me suis dit, bon, passe ces qualifications, essaye d'aller jusqu'au bout, tu verras après. On avait, alors je pense que ça existe toujours, hein, mais quand on est ingénieur, on a la possibilité d'une passerelle vers pilote, ce qui permet de gagner un peu de temps. C'est-à-dire que si on a les certificats théoriques, on gagne déjà l'année à Toulouse là de cours théoriques. Et puis en fonction de son niveau de pilotage, on peut ensuite, entre guillemets, gratter un petit peu. Moi, je suis arrivé, j'avais un pilote professionnel IFR. Bah, on refait faire quand même une certaine partie pour me mettre bien au moule, bien structuré, etc. Mais j'ai gagné, au lieu de faire 3 ans, j'ai fait 1 an et demi. Donc c'était quand même une bonne affaire. Je pense que pour un pilote, avoir également un autre bagage, ça n'est pas incohérent. D'une part, une licence, ça peut se perdre. Et puis, on peut tomber dans une phase où malheureusement, pendant 3, 4, 5, 8 ans, il ne se passe rien, il n'y a pas d'embauche. Donc il faut bien faire quelque chose. Donc commencer par un diplôme d'ingénieur peut être une très bonne idée, je pense.
Et pardonnez-moi de terminer par une question en lien avec l'argent, le salaire. On imagine que les pilotes de ligne, commandants de bord, gagnent bien leur vie. J'ai comme l'impression que c'est pas l'argent qui a guidé votre carrière.
Alors, je ne pense pas qu'il y ait un pilote pour qui ce soit l'argent qui ait guidé la carrière. Sincèrement, de tous les pilotes que j'ai vus, c'était au départ un rêve, c'était quelque chose qui était viscéral. Bon, après, tout dépend aussi dans quelle compagnie vous êtes. Il y a certaines compagnies qui, malheureusement, ne payent pas vraiment les pilotes. Hein. Mais non, je pense que ça ne doit pas être de toute façon une motivation. Vaut mieux faire à ce moment-là trader ou je sais pas, analyse financière ou chose dans ce genre-là. Ça sera beaucoup plus
lucratif. Je me suis permis de poser cette question parce que j'imaginais bien votre réponse et qui prouve d'ailleurs, comme l'ensemble de l'entretien, que bon, votre rêve, votre passion, c'était bien l'origine, alors que ceux qui voient souvent les pilotes avec uniquement la question peut-être salaire ou autre. Voilà, je pense que cette heure qu'on vient de passer ensemble nous permettra aussi de voir le pilote de manière différente. Alors Fabien, une nouvelle fois, nous vivons dans l'Oiseau Blanc une forme de frustration, c'est-à-dire que bien celle de terminer l'entretien en ayant toujours des questions en réserve. Nous aurions bien continué avec vous pour découvrir encore plus encore ce monde que vous avez eu la chance de parcourir. Alors dans la période de ces tensions internationales que nous vivons, oui Fabien, je vous remercie de nous avoir permis cette évasion de nos inquiétudes. Je dirais de nous avoir fait rêver à cette aviation dont l'objectif ne devrait pas être celui certainement de détruire, ni d'écraser un peuple. Alors je vous remercie de nous avoir fait découvrir ce métier qui vous a fait tant vibrer, oserais-je dire que vous avez tant aimé et qui, j'en suis le témoin, vous a fait rester celui que vous avez toujours été, simple, souriant, et on vient de le voir là dans cette vue complémentaire dans notre entretien, oui, souriant et toujours disponible. Un grand merci à vous pour cette part d'évasion que vous venez de nous offrir. Oui, en ces heures, nous l'avons goûté, j'en suis convaincu, à sa juste valeur. Fabien, je me permets de vous laisser les derniers mots, si vous le voulez bien.
Merci beaucoup, je suis très ému. Je voudrais juste ajouter par rapport à cette situation internationale. Bon, il m'est arrivé de me poser à Kiev, hein, et avec une escale charmante, hein, des gens adorables. Et moi, je pense à eux, je pense... C'est vrai que c'est un peu cette particularité, c'est que nous, on a entre guillemets des connaissances, des amis un peu partout dans le monde, et ça nous touche peut-être un peu plus parce que on connaît ces gens-là, ou du moins on les a connus, on les a côtoyés, on a pu frayer un peu, se lier peut-être pas d'amitié, mais au moins de moments sympathiques. Et bah oui, bien sûr, oui, je pense à eux et à cette tristesse qui leur tombe dessus, quoi, voilà. Donc, en espérant que ça se fasse au plus vite. Merci encore, Philippe, et à toute votre équipe pour ce très beau moment pour moi. Merci.
C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à notre veille technique, notre dévouée et toujours souriante, Tiphaine Lemen. Vous pourrez retrouver cet enregistrement de L'Oiseau Blanc, ainsi que tous les précédents sur le site de la station, mais aussi grâce aux pages Facebook de l'émission et de la radio. N'oubliez pas par ailleurs qu'Esprit Occitanie dispose désormais de toutes ses applications, Apple, Android, que je vous propose de télécharger très vite si ce n'est déjà fait. Dans une prochaine émission, je recevrai M. André Brismontier, un autre passionné de l'aviation, qui nous fera en particulier découvrir ses phares aéronautiques avec leurs éclats de lumière qui aidaient à la navigation aérienne à vue dès 1920. Certains de ces phares ont d'ailleurs été utilisés par les pionniers de l'aéropostale et ils sont encore visibles en Occitanie. À très bientôt avec L'Oiseau Blanc.